Chers amis, Hachem Alechem Tihyou, Leorech Yamim Tovim Shanim Neemim, Haverim Yekarim Bahavivim. Poursuivons notre étude approfondie. Plongeons-nous dans les commentaires exceptionnels, lumineux du Zera Shimshon, un livre exceptionnel qui apporte, cette étude qui apporte salut et délivrance pour toutes sortes de situations difficiles. Le mérite du maître, Rabbeinu Shimshon Haim Nahmani, accompagne chacun. Nous sommes Parashat Haye Sarah d'Arouche 9. Eliezer est invité à entrer chez les parents de Rivka. Et là, avant de se mettre à table, il se sent obligé de retracer devant Bethuel et Lavan les événements de sa journée. En effet, il est sorti de la maison d'Abraham le matin. Et immédiatement, dans la journée, il arrive devant le puits. Chachamim nous disent qu'il a eu kfitzat aderech, que le chemin s'est raccourci. Le chemin a sauté devant lui. Et il déroule devant eux l'extraordinaire intervention de la Providence. Comment il a exprimé son souhait, sa prière, et que immédiatement celle-ci s'est réalisée. Alors, son récit commence par la mission que lui confie son maître, le détail des recommandations qui lui sont faites. Ici, il relate sa propre intervention et la question qu'il pose à Abraham. Et je dis à mon maître, Oulai, l'otelech Aïcha Haray, peut-être que cette femme ne me suivra-t-elle pas. Elle ne voudra pas venir ici. Que dois-je faire? Et Hashem Vashiv et Bincha, et là, reste à chercher Yastatamisham, est-ce que je te ramènerai Yitzhak là-bas, du pays duquel tu es sorti? Et là, Abraham lui garantit que Akash Bokhu l'aidera à réaliser parfaitement la mission qu'il lui a confiée. Mais arrêtons-nous un instant sur le terme employé. Ve'ama va Omar el Adoni, Oulai lo teler Aisha Haray. Rashi rapporte le mot Oulai. Le mot Oulai est écrit Aleph Lamed Yud. Peut-être que la femme ne viendra pas vers moi. Il est écrit sans vav ce mot Oulai, de sorte qu'on peut lire Elai, puisque dans la Torah il n'y a pas de voyelle. Comment doit-on le lire? Elai. Donc il fait allusion à lui, à lui-même. Alors nous dit Rashi, Eliezer avait une fille et il cherchait à préparer Abraham à se tourner vers lui pour la faire épouser par Yitzhak. Abraham lui a dit, Béni Baruch ve'ata Arour. Toi, mon fils est béni, puisque les brachot ont été octroyés à Abraham et à Yitzhak. Et toi, tu es Eliezer. Eliezer, tu es de la... Toi, tu es lui-même Eliezer, c'est Kenan, le fils maudit de Ham. Maudit par le grand-père, maudit par Noir. La question, ça c'est le Midrash Rabbah, rapporté par Rashi. La question se pose, pourquoi avoir choisi de faire allusion aux intentions d'Eliezer ici, quand lui-même raconte les faits à Bethuel et Laval? Voilà qu'au début de cet épisode, quand Abraham commande à son serviteur, il dit à Eliezer d'aller en mission à la recherche d'une épouse pour Yitzhak, Eliezer lui glisse cette idée que sa fille serait digne d'épouser, de devenir l'épouse de Yitzhak. C'est lors de cette discussion qu'Eliezer laisse entendre à Abraham que cette option est ouverte. Et que c'est là que l'allusion aurait dû être placée. Le verset dit, le serviteur dit peut-être que cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Voyons Merela, voyons Merela va Eved, Oulai, l'autove Aïcha, la lechet à Haray. Peut-être que la fille, elle voudra pas venir. Là-bas, le mot Oulai, il est écrit avec Vav. C'est seulement quand il raconte à Lavan qu'il est écrit sans vav. De plus, pourquoi avoir employé l'expression « il cherchait un moyen » Le Midrash dit « il cherchait un moyen détourné que Abraham se retourne vers lui ». Le mot employé dans le texte en hébreu, il dit « aïla »« ayam hapes aïla » un prétexte. Ce mot-là sous-entend une ruse, une sournoiserie. Il fallait dire « il avait une fille, il cherchait à ce qu'Abraham vienne vers lui. Il est dit plus haut, lors de la rencontre entre Eliezer et Rivka, lorsque les chameaux finirent de boire, il prit un anneau d'or et deux bracelets qu'il plaça sur ses mains. Il n'est pas dit ce qu'il fit de l'anneau, comme cela est précisé pour les bracelets. Cependant, plus loin, il est dit, et ce fut lorsqu'il, la vint, vit l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Alors, il a couru vers dehors, il a dit, celui-là, c'est un riche, je vais prendre l'argent. Il a vu l'argent, il est devenu fou. Nous pouvons avancer qu'avec l'anneau, il fit les kiddushin. C'est kinyan. Il marie Rivka pour Yitzhak. En effet, ce terme, Vaikar, fait référence à l'acte de mariage, comme il est dit, qui est Ish Isha. Eliezer est l'envoyé, le chaliar d'Avraham, il est mandaté par son maître pour agir en son nom. L'action qu'il accomplit est imputée à celui qui l'a dépêché, comme il est dit, chaliar chez la dame, Kamoto. Donc quand c'est Eliezer qui met l'anneau au doigt de Rivka, il fait l'acte de mariage. L'acte de marier se fait avec de l'argent. Quand l'homme donne à sa future épouse une somme d'argent, un objet de valeur, devant deux témoins, ce geste a valeur juridique et acte de mariage. À présent, cette femme est son épouse. Nous apprenons ce détail, kesef, du fait que l'acquisition d'un champ se fait avec de l'argent. Kiha, kiha, misde Ephron. Comme l'argent que Abraham a donné à Ephron. Le terme employé aussi, kiha, prendre, de sorte que ce terme sous-entend l'acquisition par l'argent. Le mode de déduction utilisé dans ce cas est celui d'analogie. Ekesh, c'est le deuxième des 13 principes de déduction de la fameuse Baraita de Rabbi Ishmael qu'on dit juste avant Odo. A Torah nidreshet beyud gimel midot a Torah nidreshet. Kiha kiha misde Ephron. C'est la Gemara dans Kiddushin, au début de Kiddushin. C'est seulement après avoir effectué l'acte de marier Rivka qui lui donne les bracelets. Alors c'est quoi les bracelets? C'est sauf la nôtre, c'est des cadeaux, c'est des présents. Comme il est dit, celui qui envoie des présents à la maison de son beau-père, après les kiddushin, si en son honneur il prépare un banquet et qu'il y participe, ces cadeaux ne pourront être réclamés que dans le cas d'annulation du mariage. Mais il n'y participe pas. Mais s'il n'y participe pas, il pourra les récupérer. C'est-à-dire, si lui, il envoie des cadeaux, après ils font une saouda, et que le hatan, il mange à la maison du beau-père, alors les cadeaux qu'il a envoyés, ils peuvent pas être récupérés. S'il mange pas, c'est différent. Ça, c'est la Gemara dans Baba Batra, à la page Kouf, Mem Vav. Eliezer agit comme un délégué. Il a déjà envoyé les présents, de sorte qu'il mange à la table des beaux-parents. Ou non, ça ne change rien. Si la famille refuse, c'est pas lui-même, il est pas hatan. Donc c'est le hatan, nous avons dit. Si la famille refuse, alors il peut récupérer. Les présents seront récupérés. Les cadeaux, les sauvelanout. Quand Eliezer est invité à entrer chez les parents de Rivka, on dresse une table en son honneur. Mais que dit-il? Je ne mangerai pas. Il faut d'abord que je parle, je raconte. Pourquoi refuse-t-il de manger? Est-ce qu'il craint de perdre des présents offerts? Si on lui refuse Rivka, voilà que cela ne s'applique qu'au prétendant lui-même et non à son envoyé. Il semble bien qu'Eliezer agisse avec ruse. Et c'est avec malice qu'il refuse de faire honneur à ses hôtes. En effet, comment ce refus est compris par la famille? De quelle manière risque-t-il de l'interpréter? Il semble bien qu'Eliezer veuille suggérer à cette famille que leur fille n'est pas destinée à son maître comme il le prétend, mais bien à lui-même. La preuve en est son refus de manger, tant que la réponse ne lui a pas été donnée. Il est évident que Bethuel, comme Laban, n'accepterait en aucun cas que leur fille devienne l'épouse d'un esclave, même s'il est de la grandeur d'Eliezer. De sorte que par son agissement, Eliezer incite la famille à refuser le mariage, ou au moins à ce que Rivka l'accompagne, ne sachant pas ce qui risque d'advenir d'elle. Serait-elle l'épouse d'Itshak ou la compagne d'Eliezer? Mais au fait, pourquoi vouloir obtenir un refus? Quel intérêt en retirerait Eliezer? N'oublions pas qu'Eliezer a une fille qu'il cherche à marier. Et ça, c'est à n'importe quel prix, il veut marier sa fille. Et il aspire certainement à s'unir à la famille d'Abraham. Si on lui refuse Rivka, il sera libéré de son serment et aura alors la voie libre pour sa fille. Abraham n'aura d'autre choix que de se retourner vers lui, c'est ce qu'il pense. C'est le sens de l'expression employée par Rashi. Et il cherchait à préparer Avraham à se tourner vers lui pour la faire épouser par Yitzhak. C'est Aïla, Aya Mechapes. Ce plan élaboré par Eliezer nous est dévoilé quand il s'adresse à Bethuel et Lavan. C'est pour cette raison qu'il est fait allusion lors de cette prise de parole. Pourquoi est marqué Oulai avec sans vav quand il parle à Lavan et non pas quand il a parlé à Avraham? C'est ici, parce que ce plan, c'est là que ça se dévoile. Alors que ces mêmes termes adressés à Avraham ne sont pour contenir que franchise et loyauté. Ils traduisent le souci sincère d'un serviteur qui ne cherche qu'à satisfaire son maître. Avraham n'est pas au fait de ce que lui prépare son fidèle esclave. Il est bien loin de se douter de l'intrigue qu'il manigance. Il y a lieu ici de souligner l'utilisation que fait Eliezer de connaissance de la Torah. Il connaît la Torah et ici on voit un défaut chez Eliezer. Mais qu'il soit, il est dit que la Torah aiguise l'esprit du naïf, comme est marqué au début de Michelet, et lui apprend la malice. Mais ici, cela va bien au-delà. L'attitude d'Eliezer tient plus de la fourberie que de la malice. Il cherche carrément à tromper son maître. Comment un homme de Torah comme lui, qui est qualifié de l'égal de son maître, dans sa connaissance, peut-il agir de la sorte? Observons ce qu'il dit dans la Gemara, dans Yoma. Eliezer Zaken, Veyoshev Bishiva, Vetole ou Mashke Mitora Trabo Laharim. C'est étonnant. Eliezer, de par son désir de placer sa fille, réduit la Torah à sa propre dimension. Elle devient une bêche entre ses mains pour parvenir à ses fins. L'étude doit se faire avec une hauteur d'esprit, dans l'intérêt général, et pour donner satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Le sage qui s'adonne à l'étude se met au service de celle-ci et pas à l'inverse. Quand l'homme se met en avant, là s'ouvre à lui toutes les dérives. Il risque de s'égarer, d'oublier l'essentiel. Le Rambam souligne que tirer profit et intérêt de son savoir, de ses connaissances, est une profanation du saint nom d'Akadosh Baruch Hu Tout-Puissant. À chacun d'en prendre garde, d'être vigilant et de rester modeste. Ça, il faut voir ça dans Ilchot Talmud Torah d'un Rambam au 3e chapitre. Cependant, Avraham lui avait bien souligné dans son refus qu'il était maudit. Alors, Kitzhak, lui, il est béni, béni, barour, ve'ata arour. Et les airs pensaient trouver une parade à cela. Comment il va bloquer dans laquelle il se trouve? La Torah elle-même nous donne la réponse. En effet, quand Lavan sort à sa rencontre et l'invite à rentrer dans leur demeure, il lui dit, bon, Beruch Hashem, il le prend pour Avraham. Alors il dit, viens, tu es béni de Dieu. Pourquoi restes-tu à l'extérieur? Eliezer est qualifié de béni par la Torah, qui met ces mots-là dans la bouche de Lavan, de sorte que dès à présent, Eliezer est débarrassé de la malédiction et pénètre dans le monde de la bénédiction. Plus rien ne peut plus l'empêcher que sa fille puisse se marier avec Yitzhak. La question qui se pose ici est de quelle manière cette transformation s'opère sur Eliezer. L'une des réponses que l'on peut proposer est que ni le non-juif ni l'esclave ne peuvent faire office d'envoyé pour marier une femme. Pour remplir ce rôle, il faut être soi-même soumis aux lois et aux règles du mariage, comme marqué dans le Rambam. Dans toutes les shliachot, chaque fois qu'on nomme un shaliar, ne peut être nommé un shaliar que si lui-même il peut accomplir pour lui-même la chose. Mais si lui-même il peut pas faire la chose pour lui-même, il peut pas la faire pour quelqu'un d'autre. Afin que le mandat qu'Avraham confie à Eliezer soit valable et que ses actes aient une force de loi et soient effectifs, il est dans l'obligation de la franchir. Un esclave que son maître libère devient un juif à part entière, de sorte qu'Eliezer est l'égal d'Avraham lui-même. Il n'a plus aucun lien avec ses pères. Il est comme un enfant qui vient de naître. On peut aussi proposer une autre réponse. Au départ, Eliezer est encore esclave. Il ne peut donc prétendre à s'allier à la famille d'Abraham. En effet, l'esclave ne possède pas de filiation. Ses enfants n'ont pas juridiquement de lien avec lui. « Avadim en laem yahus » nous dit la Gemara dans Kiddushin. De sorte qu'à présent, qu'Eliezer est affranchi, il lui est possible d'y prétendre. Dès lors, cette éventualité peut être introduite dans la Torah. Elle se fait dans les paroles qu'Eliezer adresse à Lavan. Pour cette raison, cette allusion n'a pas lieu d'être dans le dialogue entre Avraham et Eliezer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là encore, Eliezer, il est encore esclave. Toutefois même, si Eliezer a été affranchi en raison de sa mission, sa fille, elle, est encore esclave. Il n'a pas tout à fait solutionné le problème. C'est pourquoi il cherche un moyen pour qu'Abraham se retourne vers lui. Il pense avoir trouvé la parade. Comment résoudre ce problème, cette difficulté? Si la famille de Rivka refuse de la laisser partir, Abraham se résoudra-t-il à prendre une fille de Canaan pour Isaac? Eliezer paraît avoir trouvé les arguments pour convaincre Abraham qu'il est préférable qu'Isaac épouse sa fille plutôt qu'une fille de Canaan, une autre. Il est bien évident que la fille d'Eliezer possédait de grandes qualités. Elle avait grandi dans la maison d'Abraham, elle a vécu avec Sarah et observé ses attitudes, ses comportements. Et de plus, en vue de son mariage, elle aussi serait affranchie. Il semble qu'Eliezer réussira à marier sa fille avec Isaac. Abraham avait répondu à Eliezer, Hachem, qui l'a fait sortir de la maison paternelle du pays de sa naissance, lui-même enverra son messager pour le précéder afin que sa mission soit une réussite. Abraham précise la maison de son père et le pays d'origine pour bien montrer à Eliezer l'importance de la filiation et des origines, de sorte qu'Hachem le préserve de faire un mauvais choix. La Gemara met l'accent sur ce point en disant que tout celui qui épouse une femme qui ne lui sied pas, qui ne lui correspond pas, le prophète Eliyahu le ligote, et c'est Hachem qui le fouette. Marqué dans Kiddushin 70. Il s'agit d'une union dont les enfants seront pessoulim, comme une mamzeret ou une divorcée pour un Kohen. Ici, il s'agirait ou d'une esclave ou d'un peuple avec qui l'union est interdite. Hachem enverra son messager. Il s'agit d'Eliyahu, l'ange qui valide les unions, afin qu'Hachem y mette son sceau. Donc quand on fait une union, il faut que ce soit scellé par la volonté de Dieu, de la bracha. Que répondent Lavan et Bethuel à Eliezer? Ces événements sont la volonté de la providence. Nous ne pouvons en dire ni du bien ni du mal. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'opposer à ce mariage, ni l'approuver. Ce qui est étonnant. Rivka est encore mineure, elle est soumise à la volonté paternelle. Cependant, il est interdit pour un père ou les frères de marier leur sœur ou leur fille contre son gré. Il faut donc attendre qu'elle atteigne l'âge adulte et donne son accord. Comme la Gemara dit dans Kiddushin, même Aleph, Assur l'Adam Shekadesh Bito, Ashetagdil, Shetagdil, Beton Marle Plonia Nirosa. Je veux telle. Il faut qu'elle accepte. Ils auraient dû donc s'opposer à ce mariage. Mais d'un autre côté, ils auraient dû l'approuver, car si la fille encore mineure a été mariée, même sans son consentement, on n'annule pas pour autant l'union, s'il n'y a pas d'autre option. Comme ça, dit le Shulchan Aruch, Reven Haezer, au Siman Lamed Zayin Seif Het, dans le Rama. Dans notre cas, Yitzhak n'a pas la possibilité de devenir à elle. Il lui est interdit de sortir du pays d'Israël. Du fait du sacrifice, il a été à coude, il est monté à Olatemima. L'autre option est que Rivka aille à lui. Cependant, cela pose problème. Si elle ne trouve pas grâce aux yeux de son prétendant, elle subira l'affront d'avoir fait tout ce déplacement pour essuyer un refus. L'honneur d'une femme se trouve dans son intérieur, nous dit le sage. Ce n'est donc pas à elle de faire ce voyage. Kolkevuda da batmeler, penima. D'autre part, c'est à l'homme d'aller à la recherche de la partie manquante, et non l'inverse, comme la Gemara dit au début de Kiddushin. C'est l'homme qui va chercher la femme. Toutefois, il semble que la providence a guidé les pas d'Eliezer, que cette rencontre fortuite est plutôt l'expression de la volonté suprême. Alors, dans ce cas, il n'y a pas de place au doute, ni aux règles. Il est certain que plus tard, elle le désirera comme époux, et qu'elle trouvera grâce à ses yeux, de sorte qu'il formera assurément un couple harmonieux. Le Rav Zera Shimshon propose une autre réponse. Le Yakut Reuveni, qu'est-ce qu'il dit? C'est un Chacham, Rabbi Avraham Reuven à Cohen. Il a vécu au 17e siècle à Prague. Il commente le verset où il dit, Akadosh Baruch Hu, Hashem, Ishlach Malachol Efanecha. il t'enverra un ange devant toi. Alors il dit, parfois il arrive, c'est quoi ce pshat? C'est quoi cet ange? C'est quoi l'explication de ce pasouk? Dis-le, écoute, parfois il arrive qu'un homme désire une femme pour épouse et qu'il essuie un refus. Il dit, c'est l'ange préposé à cette fonction, à la fonction de marier, celle de valider les unions, qui incite la femme à repousser les avances du mari, du prétendant. Mais ici, ce n'est pas le cas, car l'ange qui a été envoyé à la demande d'Abraham contrarie celui qui refuse, qui incite au refus de Rivka. Donc Rivka donnera son accord. Immédiatement, comme le texte le dit lui-même, l'Éternel enverra son ange devant toi, tu prendras une femme pour mon fils. On remarque l'immédiateté suggérée par le verset entre l'envoi de l'ange et la prise de l'épouse. Alors, nous dit le Rav, c'est pour cela que Lavan et Bethuel disent, nous ne pouvons ni nous opposer ni confirmer. En effet, deux anges se trouveraient sur les lieux. L'un qui s'oppose et l'autre qui confirme. Donc il y a un tsad de dire non, un tsad de dire oui. Nous ne savons pas choisir. Bethuel et Lavan, ils sont tiraillés des deux côtés. Cependant, il y a deux options, ils ne savent pas laquelle choisir. Cependant, c'est Rivka qui va trancher le dilemme, car cet ange n'a été envoyé essentiellement que pour elle, afin de l'aider à faire le bon choix. Comme cela est explicite dans le verset, nos maîtres disent, trois personnages ont invoqué l'aide du ciel. En ces termes, des termes qui sont inadaptés. Deux reçurent une réponse appropriée, le troisième une réponse incorrecte. Alors qui sont-ils? Eliezer, Shaul et Iftah Hagiladi. Eliezer adresse une requête incomplète dans sa prière. Il dit que la fille à qui je dirai de grâce, penche ta cruche, afin que je puisse boire, qui me répondra, bois et j'abeuverai tes chameaux. C'est elle que tu auras désignée pour Yitzhak. Si cette fille avait un défaut ou une infirmité, Eliezer l'aurait-il choisi pour son maître? Néanmoins, Hachem lui répond parfaitement en la personne de Rivka. Le roi Shaul aussi, il cherchait un valeureux guerrier capable de combattre Goliath. Il lui dit, celui qui abattra Goliath, le roi l'enrichira et lui donnera sa fille. Et si cet homme avait été un esclave ou un mamzer, comment il aurait fait pour lui donner sa fille? Néanmoins, Hachem lui répondit parfaitement. C'est David qui s'est présenté. Les Tosafot font remarquer que pour Eliezer, la Gemara ne propose pas la possibilité que la fille soit esclave ou mamzeret, comme elle le fait pour le cas de Shaoul. C'est une question. Et il répond au nom de Rashi que pour Eliezer, cela n'est pas pertinent, car à cette époque, la Torah n'a pas été encore révélée. Qu'il n'y a donc pas les règles dont la transgression engendre les cas de mamzer. Comme ça, Tosfot Ta'anit à la page d'Alef Alef. Amoud Alef. Le mamzer, c'est quoi un mamzer? Un mamzer est un enfant qui naît d'une union interdite, dont le rapport, il est Hayav Karet, et dont l'acte de mariage et Kiddushin ne prennent pas effet. Par exemple, une femme déjà mariée à un homme. Alors, on ne peut pas marier une femme déjà. Alors, les Kiddushin ne sont pas Tufsim. Où il y a 36 cas, où il y a un Hayav Karet dans la relation. Nombre de rabbins s'étonnent de cette réponse. Ils ne s'en contentent pas. Elle est à l'évidence insuffisante. En effet, Abraham a accompli toute la Torah avant qu'elle ne soit révélée. Et même les obligations instituées par les rabbins, comme Iruvé Tafshilin, n'aurait-il pas respecté une règle aussi importante qui interdit d'épouser une mamzeret? Cette question-là, elle est soulevée dans le marcha. Alors le Rav Zera Shimshon, il propose d'expliquer la réponse de Tosafot. La halakha de mamzer ne concerne pas les non-juifs. En effet, un mamzer qui aurait un enfant du non-juif, l'enfant est goy et non mamzer. S'il se convertit, les juifs sont sans aucune trace, aucun défaut. De sorte que les filles de Bethuel, comme celles de Lavan, ont un statut de non-juif. Pour se marier avec Yitzhak ou Yaakov, elles doivent se convertir, de sorte qu'elles sont considérées comme un enfant qui vient de naître. Comme nous avons dit, Ger shenit gayer ketinok shenolad dami. Le seul cas qui pourrait poser problème est le suivant. C'est un non-juif, un enfant avec une mamzeret. Dans ce cas, effectivement, l'enfant aura la trace de sa mère, qui reste, l'enfant, il est mamzer. Revenons à la question de Tosafot. Pourquoi ne pas craindre que la fille, en l'occurrence, aurait pu être mamzeret? La seule possibilité pour que cela soit réalisable est que Bethuel, qui est goy, aurait eu un rapport avec une mamzeret juive. la fille qui serait née de cette union aurait été, en effet, mamzeret, elle aurait eu le statut de mamzeret. C'est là que les Tosafot répondent que la Torah n'a pas encore été révélée. Il ne peut, à cette époque, exister un cas pareil cas, puisqu'il n'y a pas d'autres juifs. De plus, les seuls à avoir le statut de juif sont Avraham et sa famille. Auraient-ils pu être soupçonnés de tels comportements? De sorte qu'effectivement, il n'y a pas lieu pour Eliezer d'avoir une pareille crainte. Donc on comprend pourquoi il a choisi de dire telle chose et pas telle autre. Pourquoi la Gemara l'a dit, il aurait pu être avec des défauts physiques et pas Mamzeret. La question qui mérite notre attention concerne la démarche d'Eliezer, qui compte sur une manifestation prodigieuse de la Providence afin de déclarer, pour prouver, alors que cela n'est pas admis par nos maîtres. Ils disent « En somchim alanes », on ne doit pas compter sur le miracle, comme la Gemara dit dans Shabbat 32. Néanmoins, le Midrash interprète la demande d'Eliezer en ces termes. « Accorde une grâce à mon maître. Seigneur, tu as commencé, alors conclue. » C'est ça, comme ça le dit le Midrash. Qu'est-ce que cela signifie? Ailleurs dans le Midrash, il est dit qu'Eliezer a atteint sa destination le jour même où il s'est mis en route. À l'instant même, ce qu'on a dit, il a eu Kfitzat Aderer. Comme il est dit, va avoir Ayom, Alain, je suis arrivé aujourd'hui même au puits. De sorte que la distance qu'il devrait parcourir et s'est contractée et que l'on qualifie comme Kfitzat Aderer. En constatant ce phénomène, Eliezer est parfaitement conscient de l'intervention spectaculaire de la Providence. C'est alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, une fila, en demandant que cette intervention se confirme pour le reste de la mission qu'il doit faire. De plus, il raconte cela à ses hôtes, afin qu'il n'ait aucune réticence. Comme déjà souligné, il ne peut en être autrement. Rivka est bien désigné par la Providence, c'est la Shgaha Pratit, qui l'installe dans la demeure d'Isaac. Comme dit David, le Seigneur dirige les aides solitaires vers la demeure qui est la leur. Eliezer ne pouvait un instant imaginer qu'on lui présenterait une fille qui n'est pas digne de son maître. Cela en associant le mérite d'Avraham et Isaac. Le psalmiste dit, le spectre du méchant ne s'opposera pas là où se trouve la destinée du juste. De sorte que le juste ne s'allie qu'avec une épouse de qualité qui lui correspond, comme la Gemara le dit au début de Sota. Ceux qui réussissent, ceux qui les entreprennent de façon miraculeuse, doivent le faire savoir et le diffuser, afin que le nom du Tout-Puissant Akadosh Baruch Hu y soit glorifié. Il est évident que l'intérêt de Bethuel, comme celui d'Avan, était de favoriser ce mariage. La renommée d'Abraham n'était plus à faire, sa notoriété traversait les frontières, sa richesse et sa puissance étaient célébrées, dans le sens que la réussite de ce mariage était toute naturelle. Si les choses s'étaient passées aussi naturellement, la gloire d'Abraham ne s'en serait pas trouvée grandie, de même pour la gloire d'Hachem. Donc le miracle, qui se passe là, c'est pour dire le sroud d'Abraham et combien Kadosh Baruch Hu, il préserve. Et il agit en faveur de Tzadikim. Qui aurait su que tout cet épisode est jalonné étape par étape par l'intervention de la Hashgaha Pratit de la Providence et que la puissance d'Hachem et sa maîtrise des événements ne fait plus aucun doute, même pour ceux qui en douteraient encore. C'est la raison pour laquelle Eliezer a entendu dans son discours ces paroles. « Je suis le serviteur d'Abraham. » Comme pour nous dire, c'est pas naturel. Tout ce qui se passe chez nous, c'est pas naturel. Que le moindre détail de notre existence est l'expression de la Hashgaha Pratit, la Providence. Rien dans notre vie n'est du ressort du naturel. Nous avons déjà souligné que c'est par les paroles de la vanne qui invite à entrer dans la maison que la Torah témoigne qu'Eliezer n'est plus esclave, qu'il fait à présent partie de ceux qui reçoivent et diffusent la bénédiction. Avraham, en lui confiant une mission de cette importance, l'a affranchi, comme on a dit, de sorte que pour endosser le rôle d'envoyé, celui d'Avraham, il doit avoir un statut identique, comme il y a marqué dans Yoreder. Alors, nous apprenons la possibilité de nommer un homme qui agit pour nous de la même répétition, Atem Gamatem. Aussi, il est superflu. Atem, gamatem, les rabot, le chachem. Ma atem, bene berit. Af, le chachem, bene berit. De la même manière que vous, vous êtes des, faites partie de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Alors, tous vos envoyés, que vous, les shlichim que vous enverrez, ils doivent être comme vous. Ils doivent être aussi bene berit. Il est à noter que la confiance qu'Avraham accorde à son serviteur est ce qui va lui permettre de prendre son autonomie et de découvrir sa propre liberté. En effet, dans cet épisode, Eliezer est seul confronté aux événements et aux objectifs de sa mission. C'est là qu'il prend conscience qu'il est capable d'agir seul, d'implorer seul l'aide du Seigneur et de l'obtenir. C'est en cela que consiste pour lui la liberté. Il se détache ainsi de la malédiction qui l'accable, celle d'être maudit. C'est quoi être maudit ? C'est d'être tributaire de la volonté d'un maître. Il se réalise, il s'épanouit dans le rôle qui est à présent le sien. Et là, il choisit en toute liberté de satisfaire aux volontés d'Abraham. Et par-dessus tout, à celle d'Hachem. S'il n'y a de liberté pour les hommes, quelle est-elle ? C'est d'être au service d'Hachem et de sa Torah. Comme il est dit, « Elecha ben Horin, Ela, Misha Osek Batora ». Ce principe est la pierre angulaire de l'éducation, permettre à l'enfant, au disciple, de s'épanouir, de se réaliser. C'est là l'axiome de la création, ce que les maîtres de la Kabbalah appellent le secret du Tzimtzum, la rétractation, Soda Tzimtzum. Hachem se retire de son monde, il laisse la place. À qui ? À l'homme, afin que l'homme se réalise. Tant que la présence est dévoilée et effective, elle ne laisse aucune place à l'homme. De même, pour le maître ou le parent, qui doit se mettre en arrière, en retrait, laisser le disciple dévoiler son propre génie, sa propre, le laisser s'épanouir. Tant qu'Eliezer est sous la coupe d'Abraham, il ne transmet que les enseignements du maître, comme dit le verset, Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo, l'ancien de sa maison, qui domine, qui détient les pouvoirs, Ayam, donné au Mashkemi Torah Trabo, il a enseigné la Torah de son maître. Ce qui, mais sa propre Torah, lui, ce qui lui-même il dévoile, il innove, il découvre, il n'a pas encore sa place là-dedans. Il faut attendre qu'Eliezer soit affranchi, libéré, autonome, pour qu'à son tour, il se réalise pleinement. C'est cela qui confère aux hommes leur grandeur, qui les place bien au-dessus des anges. Comme nous l'avons vu ailleurs, les anges n'ont pas de possibilité d'innover de nouveaux commentaires. Ils ne peuvent dévoiler de chidushim, ils ne peuvent trancher d'alachot inédites, alors que cela est réservé uniquement aux hommes qui possèdent les énergies pour y parvenir. Il convient donc de faire jaillir ces lumières. Le rôle des maîtres n'est alors pas uniquement de transmettre le savoir, mais de guider, d'accompagner les disciples, pour les amener à dévoiler leur propre génie, leur propre chidushim. Toi qui étudies, qui te consacres à l'approfondissement des textes, ne te contente pas de répéter ce que tel ou tel a enseigné, mais dis ce que toi-même tu as innové. C'est l'essentiel. Et même si on étudie un texte d'un maître, il faut, dans le texte du maître, y ajouter quelque chose de sa propre initiative, de dévoiler soi-même, ajouter sur l'enseignement du maître, car le maître ne dira pas tout, parce que le maître est intelligent, il laisse une part de non-dit pour que l'élève lui-même, il dévoile le reste de ce que le maître n'a pas dit. Il convient de conclure en nous penchant sur un point important. Eliezer fixe le signe des cieux qui lui désignera la digne épouse de son maître par le fait qu'elle puisera pour lui, et aussi abreuvera les chameaux. Pourquoi avoir choisi ce critère? Les chameaux. Les chameaux d'Abraham. Il y a ici un saut dans les chameaux d'Abraham. Les chameaux d'Abraham n'étaient pas muselés, comme on a vu avec l'histoire de Lot. Alors, comme ils n'étaient pas muselés, alors Lot aussi, il a pas muselé ses animaux, ils allaient brouter dans les champs des autres. Pourquoi Abraham ne muselle pas ses chameaux? Alors cela n'était pas nécessaire, car naturellement il ne broutait pas là où cela est interdit. Et on rapporte cela au sujet du Hamoro chez le Rabbi Pinhas Ben Yair. L'un de Rabbi Pinhas Ben Yair ne mangeait pas tout ce qui n'était pas autorisé. Eliezer s'est dit, comment vérifier la qualité de la fille? Est-elle digne de mon maître? Possède-t-elle les qualités humaines requises? Les apparences sont souvent trompeuses. Nombre de gens donnent l'impression de respectabilité, de piété, de crainte de Dieu. Ils s'habillent de vêtements des tzadikim, ils ont l'air, mais ce n'est qu'un déguisement. Eliezer veut en être certain, comment le savoir? Les chameaux d'Abraham n'auraient pas accepté de boire si la personne qui les abreuve n'a pas toutes les qualités humaines requises. Ce test est imparable. C'est pour cela qu'Eliezer donne à Rivka, avant même de connaître son nom, l'anneau et les bracelets. Dès qu'il constate que les chameaux ont bu l'eau de Rivka, il sait pertinemment certain que c'est elle qui a été désignée par Hachem. Le test de l'eau contient aussi un autre aspect, celui de définir le chesed. Eliezer demande à boire à Rivka. C'est étonnant, voilà le puits devant lui, à quelques mètres, il peut se servir. Rivka aurait très bien pu le lui dire, elle n'est elle qu'une frêle jeune fille, elle est toute petite, alors qu'Eliezer c'est un grand, fort, puissant. Mais au lieu de ça, elle lui répond, bois et je puiserai aussi pour tes chameaux. Là réside le vrai chesed. Le chesed n'est pas ce que moi je suis disposé à faire pour l'autre de moi-même, mais consiste à faire ce que l'autre attend de moi et à aller au-delà. Eliezer aurait dû dire, j'attendrai que la fille me propose à boire. Ça aussi, ça peut être une preuve. Je suis debout et j'attends que quelqu'un vienne dire, tu veux boire? C'est là, a priori, une preuve de bonté bien plus grande que de devoir demander. Il dit, non, pas du tout. C'est là une erreur très répandue de croire que le chesed est ce que moi je suis prêt à faire pour l'autre de moi-même, sans qu'il me le demande. Là, j'ai placé les limites de mon chesed. Eliezer demande à Rivka de faire pour lui ce que lui-même aurait pu faire. Il attend qu'elle lui donne satisfaction. Fais ce que moi je te demande. Elle ne lui répond pas qu'il peut le faire lui-même. Elle s'empresse de verser son eau et ajoute ce que lui-même n'a pas réclamé. Elle puise pour les chameaux. Nous savons quelle quantité d'eau il faut pour 10 chameaux. C'est énorme. Elle le fait avec empressement, de tout son être, avec enthousiasme. Pouvoir faire, elle est elle-même enthousiasme, avec entrain de pouvoir faire ce chesed. C'est une occasion unique. Heureuse de l'occasion qui lui est donnée. Eliezer a passé la barre très haut. Il innove là une autre définition du chesed, qui jusqu'alors n'avait pas encore été à innover dans ce monde. Elle n'est pas encore apparue. C'est la démarche. Comment on définit le chesed? Rivka réussit son examen d'entrée dans la maison d'Abraham avec succès. Ses résultats dépassent toutes les espérances. Les chameaux s'abreuvent de l'eau de Rivka. Eliezer est absolument certain, il n'y a aucun doute, c'est elle qui construira la maison d'Israël. Elle en est plus que digne. C'est ainsi que se conçoit le vrai service divin. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen. Yeratzon, que cette étude, elle soit pour l'Ilou Nishma, Drohama, Desikolet, Batninet, Halo Ovadia, Mordechai Bariza, Benyamin Yaakov Barzoat Ritrout, Gabriel Eliaou, Barpenina, Zichonam le Haye Olam. Que cette étude apporte la refoua chez les mains, refoua Tenefesh, refoua Tagouf, de Nissan Tzvi Bardvora, Yosef Yoshua Barester, Sarah Rachel Bat Yoshua. Bat Yehudit Esther, Yehudit Eugénie Michel Bat Rachel, Haya Mushka Esther Bat Sipora, Jocelyne Naomi Bat Yvet Esther, Haïm Bar Simi, Amram Bar Yakoub, Eliyahu Bar Fricha, David Ben Saada, Tazuarit Vivian Bat Naomi, Shimon Bar Josephine, Yermeo Haïm Bar Esther, Saada Bat Mesodi, Natali Shoshana Bat Nicole Kolet Lala, Asher Mesod Ben Mesoda, Regis Shlomo Bar Yola Elian, Moshe Eliyahu Bar Levana, Shalom Bar Simi, Bracha Bat Haya Figel, Haim Bar Shlomit, Anna en Afanem, Anna en Afanem, que HaKadosh Baruch Hu leur octroie à la santé, une longue vie de joie et de bonheur. Tous ceux qui sont en attente d'avoir une meilleure situation, de trouver une épouse, de fonder un foyer, d'avoir des enfants, de sortir d'une situation difficile, d'avoir une meilleure parnassa, Et toutes les demandes que nous faisons, Yeratzon, que par le mérite du Rav, par le mérite de cette étude, par le mérite des tzadikim, Akadosh Baruch Hu écoute nos prières et les exauce. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Joie, bonheur, prospérité, satisfaction, réussite pour tous.